Hello à tous, vous écoutez Bien-être étudiant On Air, le podcast de bien-être qui parle des différentes problématiques de la vie étudiante. Nous sommes les étudiants relais santé de l'Université de Bordeaux et nous venons chaque mois vous parler de la santé mentale étudiante accompagnée d'un professionnel de santé. Chaque podcast est réalisé dans une atmosphère de bienveillance et de respect afin de vous accompagner au mieux dans un format décontracté mais toujours informatif. Allez, c'est parti!
Lors de ces podcasts, nous allons traiter des sujets pouvant être sensibles. Si vous pensez que cela peut vous heurter ou vous faire mal, préservez-vous et rejoignez-nous plutôt sur un prochain podcast. Si vous ne vous sentez pas bien ou que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Bien-être étudiant en R,
le podcast des étudiants relais santé de l'ESE de Bordeaux qui traite des thématiques de bien-être et de santé mentale.
Aujourd'hui, on se retrouve pour une conversation à trois autour de la thématique du deuil.
Mais finalement, qu'est-ce que le deuil ? Existe-t-il des phases de deuil ? Existe-t-il une façon adéquate de dépasser ce moment difficile ? Ce sont quelques-unes des questions qu'on va traiter dans cet épisode aujourd'hui.
Je me présente, je m'appelle Tatiana, étudiante en Master 1 Économie Internationale et étudiant relais santé du pôle bien-être. Et je suis accompagnée de ma collègue
Serena, étudiante en troisième année d'anthropologie et puis diplômée en psychologie et également étudiante en relais santé. Tatiana, pourquoi on a choisi ce thème ?
Nous avons deux raisons qui expliquent ces choix. La première, c'est que dans une période où on parle quotidiennement de la mort, il nous semblait important d'aborder ces thèmes encore trop tus, souvent tabous et au sein des familles et des groupes.
La deuxième raison, c'est aussi qu'en se rencontrant avec Tatiana, on s'est rendu compte que ce thème était important pour nous parce qu'il faisait écho à nos histoires personnelles et ça nous semblait vraiment important pour nous d'en parler et notamment encore plus parce que c'est un sujet dont on parle très peu.
Et en plus, on s'est rendu compte aussi du fait que la plupart d'entre nous faisions l'expérience de la première perte d'un être cher pour la toute première fois pendant nos études supérieures.
Mmh. Alors, pour la définition du deuil, on va dire que le deuil, c'est une réaction, un sentiment de tristesse qu'on va éprouver suite à la mort d'un de nos proches. Donc ça va forcément nous toucher à un moment de notre vie, puisque les gens qui nous entourent ne sont pas éternels, et que forcément, à un moment ou à un autre, les gens qui nous entourent vont mourir.
Il est vrai que cette notion du deuil a été reprise et appliquée dans d'autres situations de la vie, mais nous allons se focaliser sur l'essence première du deuil, qui est la mort d'un être cher. Du coup, les deuils, c'est un processus douloureux et qui prend son temps. Il est différent d'une personne à l'autre et c'est très important de comprendre qu'il n'y a pas de normalité quand on parle de deuil. Il n'y a pas une période de temps définie, une tristesse normale, quantifiable ou une manière idéale de gérer les choses ou d'exprimer les émotions. Chacun fait comme il le peut.
C'est pour ça que ça va être très important de communiquer, de parler, d'exprimer ce qu'on ressent. D'essayer de trouver du soutien chez les autres dans ces moments difficiles, mais surtout de respecter les émotions, de respecter les réactions des autres et aussi leurs pratiques dans ces moments-là. Parce qu'il va y avoir des personnes qui vont avoir besoin d'en parler, d'autres qui ne souhaiteront pas en parler, ceux qui passeront très vite à autre chose et ceux pour qui ça prendra plus de temps. Certains vont avoir besoin de rituels, d'autres pas du tout. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de comprendre ce dont on a besoin et ce dont l'autre a besoin pour pouvoir les prendre en compte et les respecter. On vous a parlé du deuil à notre façon, avec nos mots, mais maintenant on va plutôt aller plus loin dans notre réflexion et on va accueillir notre professionnel de santé du jour.
Oui, aujourd'hui nous recevons Robin Fillot, psychologue et psychothérapeute à l'Université de Bordeaux. Merci Robin de nous avoir rejoint pour ce nouvel épisode. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire quelle est ton analyse de cette petite définition que nous avons donnée ?
Ben, merci beaucoup de votre invitation. Donc effectivement, je suis psychologue à l'espace santé étudiant de l'université. Ça me fait vraiment plaisir de venir partager ce sujet qui est difficile mais dont il faut parler aujourd'hui puisqu'il peut tous nous traverser. Que dire donc sur cette première définition qui concerne la perte d'un être cher, une perte qui est irréversible, c'est ça là, un peu la définition de base du deuil. Et donc ça fait appel à notre capacité à se séparer de cette personne, c'est-à-dire de pouvoir la laisser partir émotionnellement dans nos représentations et puis en même temps de garder une part d'elle en nous.
Il se trouve que nous, on connaît un petit peu le deuil parce que nous avons perdu deux personnes dans notre vie. Donc, assez rapidement, nous allons vous introduire dans notre histoire pour essayer de contraster nos différentes expériences.
Du coup, moi, j'ai une expérience du deuil de plusieurs manières dans ma vie. Mais celle qui m'a particulièrement marquée, c'est la perte de ma maman quand j'étais adolescente. Je vais revenir tout à l'heure sur les étapes du deuil et les réactions, mais voilà.
Et moi, l'expérience qui m'a le plus touchée, c'est la perte de ma grand-mère pendant ma licence 2. Ça m'a spécialement touchée, déjà parce qu'elle est décédée d'un cancer et personne ne me l'a dit. Je n'étais pas au courant du fait qu'elle était malade. J'ai appris sa mort parce que certaines personnes de ma famille ont publié des messages sur Facebook et du coup, ma famille s'est vue un petit peu obligée de me le dire. Mais ils sont arbitrés, ils sont incités. Il y a eu toute une discussion autour de me dire ou non si elle était morte. Surtout parce que j'étais au milieu de mes examens finaux de licence 2 et que je passais par un moment un petit peu compliqué. La partie la plus difficile pour moi, ça a été aussi le fait de ne pas pouvoir partir la voir en Colombie, mon pays d'origine. Je n'ai pas pu aller la voir et même aujourd'hui, il me reste un petit pourcentage des doutes si elle est vraiment morte, même si on me l'a dit, je pense que ça va rester toujours comme ça pour moi.
On peut voir dans nos expériences avec Tatiana qu'on n'a pas vécu les mêmes phases du deuil, pas en même temps, pas dans le même ordre. Et on voulait savoir, Robin, quel était un petit peu ton avis de psychologue dessus ?
Oui, sur les étapes du deuil, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez connu. Je dirais que la population, globalement, si on interroge 100 personnes, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent certaines étapes du deuil. Chacun vit son deuil de manière très différente, parce que ça dépend beaucoup des facteurs personnels et puis de l'événement en soi, comment on l'a appris, qui c'était, quels étaient les liens affectif avec cette personne. Plus on était proche, plus ça peut être blessant et douloureux émotionnellement. Donc les étapes du deuil, effectivement, par exemple, quand on apprend la nouvelle, la sidération, le choc, voire le fait qu'on n'y croit pas vraiment, comme si c'était un peu un film, que c'était pas vraiment réel. Et puis après, il peut y avoir une forme d'effondrement ou parfois de la colère. Et puis après, il y a une forme de négociations, et puis à un certain moment, il arrive heureusement une réorganisation au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau du lien qu'on entretenait avec la personne. Donc je pense que le plus important à dire, c'est que il y a beaucoup de différences entre les personnes et qu'il n'y a pas une façon où il n'y a pas un idéal du deuil qu'il faudrait vivre de cette manière. Par exemple, il y a parfois une tendance que j'observe chez les patients ou même dans la société en général de dire il faut que je fasse mon deuil comme si c'était quelque chose d'un peu volontaire, un peu comme si on pouvait avoir un contrôle sur ça ou que c'était un peu artificiel. Pour moi, alors dans mes séances, l'idée c'est de pouvoir se laisser vivre cette expérience. Surtout, aussi un point important, c'est de ne pas pathologiser d'emblée cet état qu'on peut traverser, parce que de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des événements normaux de la vie ordinaire et qu'on est tous amenés à les traverser à un moment ou à un autre. Donc c'est pas un état pathologique en soi d'être endeuillé. Il y a des symptômes qui font penser à la dépression, par exemple un repli sur soi ou au contraire de l'agressivité, des troubles du comportement alimentaire, on a un appétit qui peut être variable, soit il y a des personnes qui ne mangent plus, des personnes qui mangent en excès. Il peut y avoir aussi des troubles du sommeil, des troubles somatiques comme des douleurs, des tensions, des blocages articulaires par exemple. Tout ça pour dire que les manifestations du deuil sont très variables, les étapes ne sont pas toutes les mêmes. On retrouve un certain nombre d'étapes chez un peu tout le monde, mais il y a des personnes qui sautent des étapes, qui y reviennent. Voilà, donc c'est pas une évolution linéaire, le deuil. C'est un processus qui est un pas en avant, parfois deux pas en arrière. Donc c'est très variable. Et il me semble que le plus important, c'est... en tout cas, moi, si je me ressens sur mon activité de psychologue à l'espace santé étudiant, c'est vraiment de s'ajuster à là où on est l'étudiant ou l'étudiante dans son vécu et de l'écouter. Enfin, je pense que la première fonction du psychologue et des séances de soutien psychologique, c'est d'accueillir la personne qui est en face et là où elle en est vraiment de son vécu. et l'accompagner à son rythme. Vraiment, c'est ce que je pourrais conseiller à des personnes qui vivent un deuil, c'est que la souffrance est normale. Ça ne veut pas dire que ce soit pas grave ou banalisé, mais c'est juste, ça fait partie de ce processus-là, la souffrance. La douleur même, parfois, quand c'est quelqu'un de très proche. La douleur morale, vraiment. Et l'idée, bah, c'est de pouvoir accompagner ce mouvement-là étape par étape, sans rien attendre, sans idéal, sans suivre comme s'il y avait un schéma sur papier. Parce que, encore une fois, chacun est très différent vis-à-vis de ce phénomène du deuil.
Tout ce que tu nous racontes, ça m'a fait penser un petit peu à mon expérience. Moi, je me souviens de me demander souvent pourquoi, si j'avais déjà passé un petit peu l'étape de tristesse ou du choc, je revenais en arrière tout le temps. Ça m'a rendu une personne un petit peu frustrée, quelque part, pendant cette période. Et en plus, ça m'a rajouté de la culpabilité, parce que j'avais la sensation qu'il n'y avait pas de contrôle. Et en même temps, autour de moi, on me disait, mais contrôle-toi, arrête de pleurer. Parfois, des personnes proches à moi qui voulaient le meilleur pour moi me disaient, tu vas fatiguer les autres en parlant de ça, il faut que tu arrêtes. Comment tu penses que les personnes autour de nous, ils peuvent nous accompagner dans ces processus ?
Il y a plusieurs façons d'accompagner, bien sûr, une personne proche endeuillée. Mais il me semble que le principal, ce soit l'écoute, que ce soit l'acceptation et l'accueil, la capacité de l'entourage, en fait, à accueillir les états émotionnels de la personne endeuillée et de ne pas avoir d'attente envers elle. J'ai souvent cette question-là, qu'est-ce que je dis à quelqu'un qui est endeuillé ? Parce que, est-ce qu'il y a des choses à dire ? Est-ce que vous, les psychologues, vous savez mieux vous exprimer sur ça, etc. Comme s'il y avait un peu une formule magique derrière. Mais l'idée, c'est de faire comprendre à l'autre qu'on est disponible pour lui ou elle, pour l'accompagner, pour l'écouter. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, à part, bien sûr, je suis désolé, etc. Et je suis avec toi. L'idée, c'est de pouvoir juste être disponible, sans donner de conseils. Souvent, en fait, ça part de bonnes intentions. Vraiment, oui, il faudrait que tu fasses du sport, il faudrait manger, il faudrait mieux dormir. C'est comme ça rend beaucoup impuissant l'entourage, parce que c'est très difficile d'aider quelqu'un d'endeuillé. Eh ben, on va se tourner vers des solutions toutes faites qui sont un peu comme un plaquage sur la personne, parce que ça rassure l'entourage de donner des conseils, de faire quelque chose. Alors que parfois certes, faire un peu de sport, se faire plaisir à travers l'alimentation ou se changer les idées, ça peut être très bien pour la santé mentale. Mais il y a des fois où la personne, elle a besoin de pleurer, elle a besoin d'exprimer, elle a besoin de crier, elle a besoin de frapper dans un coussin si c'est nécessaire. Et c'est sa façon à elle de gérer son deuil. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir d'attente envers l'endeuillé, avoir quelques paroles rassurantes, mais sans s'étaler trop longtemps. Juste un « je suis désolé », ça peut suffire. Et deux, surtout, alors la personne n'a pas forcément besoin d'entendre des choses tout le temps, elle a besoin de sentir qu'on est disponible pour elle si elle a besoin. C'est-à-dire, c'est la main tendue, c'est « si ça va pas, n'hésite pas à m'appeler à toute heure de la journée ou de la nuit », et de passer la voir de temps en temps sans être intrusif. Et de cette façon, je pense qu'on peut aider une personne à traverser le deuil, mais ça ne viendra certainement pas d'une action extérieure, en tout cas.
Dans mon cas, je pense que j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre la colère et la négociation, et le fait d'être en colère contre la terre entière, contre d'en vouloir à la terre de continuer de tourner. J'imagine que ça doit être aussi compliqué à gérer en tant qu'accompagnant, en tant que personne qui accompagne la personne endeuillée, quand justement elle est en colère et quand elle peut subir cette colère-là.
Ça peut arriver effectivement, bien que dans mon souvenir, dans mes quelques années de pratique, je n'ai pas nécessairement vécu ça en tant que psychologue, mais ça peut très bien arriver. Effectivement, il peut y avoir de la colère ressentie par la personne endeuillée et parfois elle est dirigée vers soit l'accompagnant, le psychologue ou des proches. Et ça, l'idée, c'est de pouvoir ne pas prendre directement ça comme adressé envers soi, mais plutôt considérer que c'est une façon pour la personne de dire sa souffrance. Ça passe par là, à ce moment-là. Ça passe par « je suis en colère contre tout le monde et j'en veux à tout le monde de continuer à vivre normalement alors que moi, ma vie s'arrête. J'ai l'impression que ma vie s'arrête parce que je vis quelque chose d'extrêmement difficile et intense. Et quelque part, j'aimerais bien qu'on me comprenne. » Parfois, peut-être que certains étudiants sentent qu'ils sont seuls au monde face à ça. Et ça, c'est un sentiment qui est souvent relater dans le processus de deuil, c'est je suis tout seul face à ça et du coup ma vie s'arrête et comment je vais faire pour traverser cette énorme raz-de-marée d'émotions, etc. Et donc l'idée c'est de, voilà, en tant que psychologue, c'est de pouvoir expliquer que c'est un processus, que la souffrance est normale, qu'on ne peut pas tellement la contrôler. Dans certaines interventions que j'ai faites par ailleurs dans un travail précédent, j'ai rencontré des personnes de 40, 50, 60 ans quand j'ai fait des gestions de crise dans des entreprises qui avaient vécu un événement grave, par exemple le décès d'un collaborateur. Et j'ai rencontré des personnes en entretien individuel qui me parlaient bien sûr de l'événement actuel, mais qui me parlaient aussi d'un deuil très ancien, parfois qui remonte à 30 ou 15 ans, d'un frère, d'une sœur, d'un meilleur ami par exemple, quand ils étaient plus jeunes. Et ça peut ressortir si le deuil n'est pas achevé. C'est-à-dire si la blessure n'est pas cicatrisée. Il restera toujours des cicatrices, bien sûr, on ne peut pas effacer un vécu. Mais l'idée, c'est de pouvoir se laisser le temps de cicatriser au fur et à mesure. Et ça prend beaucoup de temps. Dans les premiers mois, on fait vraiment des allers-retours entre parfois l'acceptation et parfois la tristesse, ou bien sûr il y a des rappels, par exemple les fêtes de famille, Noël ou les anniversaires. Tout ça c'est des dates qui rappellent, c'est des dates anniversaires ou la première année après le décès par exemple. C'est des choses qui rappellent l'absence. En fait l'autre se fait remarquer, la personne qui est partie se fait remarquer par son absence. C'est ça qui peut provoquer le retour à une étape précédente, mais c'est tout à fait normal.
Tout à l'heure, on a parlé un petit peu de l'accompagnement des personnes endeuillées. Et avec Tatiana, on voulait revenir sur un sujet qui nous semblait important, c'est aussi les pressions des entourages, dans un sens ou dans l'autre, puisque dans nos entourages, on nous a relaté des récits où soit les familles et les proches mettaient la pression pour aller mieux. Donc là, il faudrait que tu ailles mieux, là, il faudrait avancer. Et au contraire, des récits de proches qui n'arrivaient pas à exprimer les émotions, pas à pleurer, où la pression était de « tu pourrais quand même faire semblant d'être triste, tu pourrais quand même montrer que t'es triste », alors que bien sûr, ça n'avait aucun rapport, que ça ne voulait rien dire. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation ?
La souffrance, elle s'exprime de plein de manières différentes. Ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse l'entendre, que la souffrance, en fait, elle passe par des formes différentes. Et à l'annonce d'une nouvelle difficile, il y a plein de façons de réagir. Mais je dirais qu'il y a trois schémas globalement, si je peux résumer ça. Il y a l'effondrement immédiat. C'est-à-dire que la personne, elle réalise ce qui s'est passé, c'est la catastrophe. Et du coup, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir même un malaise ou voilà, la personne, elle s'effondre, elle s'arrête, elle ralentit de manière extrême. Il y a des personnes qui semblent ne pas réagir. Enfin, en tout cas, de l'extérieur, on dirait qu'elles ne réagissent pas. Et j'ai déjà entendu des discours comme ça de patients que j'ai accompagnés qui, même elles, ça leur faisait bizarre parce qu'il y a une toute petite partie d'elles qui comprenaient ce qui se passait à ce moment-là, mais elles ont été inhibées, elles ont été dans la stupeur, en fait, de cette annonce. Et du coup, c'est comme si il y avait une partie de soi qui était gelée parce qu'il y a tellement de souffrance en jeu que, si vous voulez, comme un mécanisme de survie, il y a une espèce d'inhibition complète de la tristesse, etc. Et du coup, il y a une anesthésie émotionnelle. En fait, cette anesthésie émotionnelle, elle sert à se protéger de l'angoisse. Et ça ne veut pas du tout dire, du coup, que la personne ne souffre pas. C'est juste que, à ce moment-là, c'est la chose dont elle est capable. C'est-à-dire, c'est la seule chose qui permet de ne pas s'effondrer gravement. Et la troisième façon schématique de réagir, c'est par une immense colère, par l'action, par des cris, par fuir la situation. Et pour la question de la famille ou les proches qui disent « tu pourrais au moins faire semblant de souffrir » ou « tu pourrais au moins aller mieux », en fait, c'est simplement que l'expression un peu maladroite d'une impuissance de la part des proches à aider la personne endeuillée, et puis aussi à accepter que chacun est vraiment différent et chacun réagit de plein de manières différentes. Et en fait, je pense que le message à entendre derrière, c'est je ne sais pas comment t'aider et je sais pas quoi faire en fait pour te soutenir là-dedans, dans cette épreuve, et est-ce que tu peux me donner des solutions ? Et du coup, on se jette sur les solutions et on donne des conseils où on dit tu devrais faire telle ou telle chose ou tu devrais pas, etc. En fait, je pense que c'est vraiment l'expression d'une impuissance.
Serena, je voulais juste te demander pour contraster un petit peu nos vécus. Tu t'es inscrit dans quel type de réaction, toi ?
Je pense que le déni, je l'ai eu avant le décès. Et du coup, après, j'ai vite été dans l'action. Et de toute façon, j'ai l'impression, dans beaucoup de deuils, de facto, on est obligé d'être dans l'action parce qu'il y a des procédures qui arrivent derrière, parce qu'il y a des choses à faire, à gérer. Et c'est peut-être après qu'on doit réaliser, qu'on a le temps de réaliser. Et encore une fois, on peut vite être happé par la vie, par les choses qu'on a à faire dans la vie, et ne pas forcément prendre ce temps-là, ni pour s'effondrer, ni pour avoir vraiment des réactions de fuite ou de colère. Donc je pense que j'ai pas eu de réaction extrême. Je pense que j'ai vraiment continué, moi, ma vie parce que je devais continuer ma vie, et que tout s'est un petit peu fait avec le temps.
Oui, moi, c'était pas du tout la même chose. Moi, j'ai appris le décès de ma grand-mère pendant le premier semestre de ma L2. Du coup, j'ai passé mes examens finaux et tout le monde était un petit peu étonné du fait que tout s'est très bien passé. C'était mes meilleures notes jusqu'à la date. Et j'ai fini l'année, tout allait bien. Et c'est pendant les vacances d'été que j'ai décidé de pas travailler. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai resté 3 mois à regarder les plafonds. Et à me demander plein de choses. Enfin, j'ai tombé dans une espèce de spirale de pensée. Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que la vie ? Mais tout est faux. C'est n'importe quoi. Pourquoi ça m'arrive moi ? Et pourquoi ça arrive aux autres ? On ne m'avait pas parlé de ça. Enfin, ça a été vraiment un truc très dur. Et c'est en septembre que j'ai commencé à avoir un petit peu des idées suicidaires. Enfin, je voulais fuir vraiment à la douleur. J'avais très mal. J'avais la sensation d'être toute seule, comme tu l'as dit, Robin. J'ai parlé avec ma mère spontanément et elle m'a recommandé d'aller voir mon médecin traitant. La prise en charge, elle s'est faite assez rapidement. Et j'ai stoppé ma vie, vraiment. C'est presque un an après la mort de ma grand-mère, j'ai stoppé ma vie pour me remettre du choc. J'ai continué à aller en cours, mes révisions, elles n'étaient plus comme avant. J'ai passé pas 10 000 heures à la BU parce que j'avais pas la force, donc j'allais en cours, j'écoutais, je vissais comme je pouvais. Il y a eu des examens où je me suis présentée presque sans réviser, mais en étant bienveillante avec moi. J'avais vraiment besoin de me focaliser, de me plier sur moi, de me donner ce temps. Et ma L3, elle s'est très bien passée. Sur les moments, j'ai pas très bien compris, mais c'est vrai que ces replis sur moi m'ont aidé à me connaître un petit peu mieux et à changer un petit peu ma vie de haut en bas. C'est vrai que ça a laissé du positif, mais j'ai eu besoin du temps.
Mais c'est rigolo de voir comme les histoires aussi résonnent les unes avec les autres. J'ai eu une amie proche qui a perdu un membre de sa famille il n'y a pas très longtemps. C'était le premier deuil un peu compliqué. Et quasiment de suite, elle m'a dit... ça fait tellement mal que je vais plus jamais m'accrocher à personne. Je vais arrêter de parler à mes amis. Je veux plus voir ma famille parce que je veux plus souffrir comme ça. Je la regardais un petit peu avec un petit sourire en lui disant je comprends. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par cette réflexion-là et on se rend bien vite compte que ce n'est pas possible, que ce n'est pas tenable et que ça fait partie de la vie.
Et Tatiana, je voulais revenir sur un point que tu as souligné qui me semble important sur le fait de ne pas avoir vu et retourner dans ton pays d'origine pour réaliser, prendre conscience. Les personnes qui apprennent ça, par exemple des collègues ou des amis ou des professeurs aussi, peuvent donc avoir cette information que la personne est décédée, mais avoir une petite partie d'elle qui croit qu'elle pourrait revenir. C'est comme si il y avait une... qu'elle était partie en vacances et qu'elle allait revenir et que, en fait, tout ça, c'était qu'un film. Et il y a, voilà, une partie de notre esprit qui peut avoir envie et nous faire croire que tout ça, c'est peut-être qu'un film et qu'on va se réveiller de cette espèce de cauchemar, de cette espèce de fiction, en fait, pour apporter au fur et à mesure plus de réalité et réaliser vraiment ce qui s'est passé dans la réalité. Parfois, ça m'arrive de conseiller à des personnes de participer aux rituels. Et les rituels sont très importants sur l'enterrement ou de faire, je ne sais pas, même un pot commun ou d'imprimer une photo ou ou de ranger les affaires de la personne qui est décédée et de savoir comment on se les répartit, etc. Tous ces rituels-là, en fait, qui sont aussi un peu individuels et aussi collectifs, eh ben, c'est des façons d'aborder la réalité et d'aider son esprit à réaliser que ça s'est passé et de l'intégrer au fur et à mesure. La possibilité de dire au revoir, la possibilité de se recueillir et d'avoir le temps de réaliser, ça influe énormément sur le processus de deuil. Et donc, bah, quand la perte, elle est brutale, elle est imprévue, c'est, chez quelqu'un de jeune, c'est plus difficile encore à vivre qu'une personne âgée, par exemple, qui arrive à la fin de sa vie. Et on peut dire parfois que c'est un processus naturel d'une personne qui a vécu sa vie, etc. Ça change beaucoup la possibilité et la douleur morale. Et tout à l'heure, tu as parlé de réorganiser sa vie en fait, au fur et à mesure et de voir que ça provoque des changements aussi, une perte importante. Effectivement, il y a un peu cette notion de traverser une forme de crise de vie. Et donc, il y a un basculement, mais il y a aussi derrière, bien derrière, hein, vraiment après tout ce processus, il y a aussi des opportunités, entre guillemets, il y a des possibilités de changer certaines choses, de se recentrer sur l'essentiel. Parfois, il peut y avoir même des personnes qui coupent les ponts avec certaines relations qui étaient un peu délétères, qui n'étaient pas forcément favorables. Il y a aussi des nouvelles amitiés ou de nouvelles rencontres qui peuvent se faire. Il y a aussi peut-être parfois des tendances à mieux prendre soin de sa santé, par exemple, adopter de nouvelles habitudes. Donc effectivement, le deuil, il y a une perte, il y a un effondrement, il y a de la douleur morale. Mais derrière, je vois chez certaines personnes aussi une forme de croissance de la personne, une forme de, et peut-être de résilience, de capacité à traverser ça.
On voulait aborder aussi la question du deuil pathologique, de savoir quand s'inquiéter, puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas vraiment de normalité dans le deuil. Mais quand est-ce que le deuil devient anormal ? Quand est-ce qu'il faut vraiment aller consulter et qu'on a besoin d'aide ?
Donc je me suis renseigné un petit peu sur ça avant de venir. Et effectivement, donc, y a le deuil qui est un processus normal, qui est un processus ordinaire qu'on va tous vivre à différents moments de notre vie. Et il y a ce qu'on appelle effectivement le deuil pathologique ou le deuil compliqué persistant. C'est à partir de 12 mois après l'événement, si... l'humeur est très triste si la personne reste dans son lit toute la journée, qu'elle est démotivée pour tout, que les images de la personne qui est partie sont omniprésentes toute la journée, tous les jours, s'il y a des troubles du sommeil, du comportement alimentaire, des idées intrusives ou des voix qui apparaissent de la personne qui est partie, etc. Donc après 12 mois, suite au décès, à ce moment-là, c'est pertinent d'aller consulter soit son médecin traitant, soit un psychologue, soit un psychiatre. On peut d'abord en parler à son médecin traitant pour être orienté de manière correcte. Parce que dans certains cas, je crois avoir lu que c'est dans 15% des cas chez les adultes, le deuil normal peut se transformer après un an en dépression majeure. Le deuil, il y a des symptômes de la dépression comme le ralentissement, le désintérêt, les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit, etc. Mais quand ça s'étale vraiment beaucoup dans le temps et quand il n'y a pas nécessairement une réorganisation qui se fait, on peut s'inquiéter davantage pour la personne et à ce moment-là, on peut diagnostiquer une dépression majeure. Je ne parle pas simplement de clou de blouse parce qu'il y a eu un rappel de la personne, il y a une date anniversaire. C'est très important la date anniversaire de la première année après le décès, par exemple. Je ne parle pas de coup de blouse occasionnel, mais vraiment d'un état continu de mal-être profond. À ce moment-là, il faut consulter son médecin traitant.
Est-ce que tu penses que les idées suicidaires, c'est un signe d'alerte ou est-ce que ça peut être un truc normal pendant les deuils ?
Ça dépend quand est-ce que ça arrive. Si c'est le premier mois, il faut bien sûr l'écouter, l'évaluer, le soutenir. Mais pendant le premier mois ou les premières semaines, c'est quelque chose de fréquent. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Alors la personne, dans ce cas-là, comme souvent d'ailleurs, elle ne souhaite pas mourir, elle souhaite supprimer sa souffrance. Elle se sent tellement submergée. Chaque cellule de son corps est remplie de souffrance, qu'elle pense au suicide. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit d'ordinaire, pas forcément chez tout le monde. C'est plus présent chez les gens qui ont perdu un conjoint, par exemple, ou un parent, que chez des personnes qui étaient un peu moins proches. Donc plus la personne est proche, plus il y a un risque. Par contre, s'il y a un scénario, si c'est demain, je sais que le tram il passe à 9h et que c'est mon heure habituelle et que je connais le chemin et que je vais y aller pour me jeter sous le tram. Là, c'est différent. Il faut absolument demander de l'aide. Alors, si c'est une urgence, on appelle le 15, hein, le SAMU. Si ça semble moins, si ça semble pas dans les 48 heures, il faut prévenir absolument un proche pour être pris en charge, aller voir son médecin traitant rapidement. Encore une fois, penser au suicide, c'est quelque chose qui est un peu ordinaire chez un peu tout le monde. Tout le monde dans sa vie, à un moment, va penser au suicide. Mais c'est pas pareil d'y penser que de le prévoir avec donc un scénario, un temps prévu et puis un moyen.
Alors, on est quand même un podcast qui a l'habitude de voir le versant positif des choses, de ne pas seulement rester dans le négatif. Et c'est pour ça qu'on va aborder le sujet des conséquences positives du deuil, ou en tout cas de ce qu'on peut en retirer.
Je me dis souvent, si j'ai réussi à passer par ces moments-là, je vais tout réussir dans la vie. Enfin, pas tout, c'est vrai. On nous apprend les deuils aussi qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas rendre la personne infinie. On peut pas... Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, mais c'est vrai que ça a été tellement dur que ça m'a laissé une sorte de résilience en moi, de confiance que je n'avais pas auparavant. Et je suis très contente de ça. C'est vrai que c'est incroyable.
Ouais, c'est un petit peu pareil sur les capacités de résilience. En effet, on se dit, si j'ai survécu à cette douleur, je pense que... aucune douleur ne pourra être pire et du coup je serai solide pour tout, donc c'est sûrement une fausse croyance, mais c'est vrai que ça permet aussi de se donner confiance. Je trouve que ça permet aussi de remettre en question ce qui se passe dans la vie, les problèmes qu'on peut avoir, et bien sûr les petits problèmes sont aussi des problèmes et on s'en inquiète, mais à un moment on peut se dire il y a pire dans la vie, et parfois ça permet un petit peu de relativiser et de s'aider au quotidien.
Et de dramatiser.
De dédramatiser, exactement. Ça permet aussi de construire de nouvelles amitiés, ou en tout cas de renforcer les amitiés quand on a été auprès de personnes qui nous ont soutenues, ou quand on a partagé ces moments-là qui sont quand même extrêmement forts avec des personnes. Ça permet de renforcer les liens. Je pense qu'un deuil change toujours une personne, et que, bien sûr, on aurait préféré ne pas avoir à vivre ce deuil, mais c'est aussi ce deuil-là qui nous permet d'être qui on est et d'avancer dans nos vies. Et il faut accepter ça. Ça va être mieux à un moment. Et il faut laisser le temps au temps, même si c'est vraiment une phrase bateau.
Tu vas apprendre à profiter des petites choses de la vie. Et c'est précieux.
Mm-mm. Je dirais pas que la douleur va passer, mais je dirais que vraiment le mot apaiser. Ça veut dire qu'elle va être là. Oui. Mais petit à petit, on va un petit peu faire la paix de cette douleur jusqu'à ce qu'elle devienne de plus en plus petite et qu'elle nous laisse vivre notre vie tranquillement.
Quand on est dans le tunnel, c'est important de savoir qu'il y a une issue au bout. Et même si on ne la voit pas, même si elle paraît extrêmement loin et qu'on est bloqué et qu'on est dans des sables mouvants, je pense que c'est vraiment important d'entendre que derrière, il y a une sortie, il y a un échappatoire.
Mais merci beaucoup, Robin, de nous avoir accompagnés pour cet épisode. Merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. À tous ceux qui sont en train de passer par cette situation, on vous envoie toute la force du monde. N'oubliez pas que nous sommes dans toutes les plateformes streaming, Spotify, etc. Et que vous pouvez nous laisser vos suggestions des thèmes pour des prochains épisodes.
N'oubliez pas de liker et de partager l'épisode, de nous noter si le podcast vous a plu. Et on va se retrouver très très vite pour un nouveau podcast. À bientôt.